Nous en sommes au deuxième jour de la retraite. Et au cours des prochains jours, j'aimerais lire et commenter le Koan 19 du Momon Kan. L'esprit ordinaire, c'est la foi. M. Lowe disait parfois que ce Koan traduisait parfaitement l'esprit de la pratique au Centre Zen de Montréal. Nous verrons peu à peu pourquoi il disait cela. Le Koan se lit comme suit. Joshua demanda à Nansen, « Qu'est-ce que la voix ?» Nansen répondit, « La voix, c'est l'esprit ordinaire. » Joshua, « Comment peut-on y accéder ?» Nansen, plus tu cherches à l'atteindre, plus tu t'en éloignes. Joshua, mais si je ne cherche pas, comment pourrais-je savoir si c'est la voie? Nansen, la voie n'est pas du ressort du savoir, ni du non-savoir. Le savoir est illusion, et le non-savoir est absence de discernement. La voie est comme l'espace vaste. Comment pourrait-il être question de ceci ou cela, être ou non être? À ces mots, Joshua s'éveilla soudain. Le commentaire de Maître Momon. Joshua interroge Nansen qui l'éclaire. Mais même si la glace est fondue, le conduit demeure bouché. Même si Joshua a atteint l'éveil, il a dû continuer à l'approfondir pendant 30 ans afin de le réaliser complètement. Et le poème de Momon. Au printemps, des fleurs. En automne, la lune. En été, le vent frais. En hiver, la neige. Si l'esprit n'est pas encombré de choses inutiles, c'est la meilleure saison de l'humain. Commençons par dire quelques mots au sujet de Nansen et de Joshua. Nansen vécut en Chine de 748 à 834. Il eut pour maître Matsu. Il fut ordonné moine à l'âge de 30 ans et étudia longuement la philosophie bouddhiste et les diverses pratiques du Shan chinois qui deviendra des siècles plus tard le Zen japonais. L'un des accomplissements de Nansen fut de ramener sur terre, pour ainsi dire, les enseignements philosophiques du bouddhisme indien, qui paraissaient alors obscurs et étrangers à la pensée chinoise, nettement plus terre à terre et soucieuse de la vie quotidienne. Nansen fut le maître de Joshua pendant plus de 30 ans, jusqu'à son décès en 834. Le Koan que nous étudions, « L'esprit ordinaire, c'est la voie », fait le récit de leur première rencontre. De son côté, Joshua, qui vécut de 778 à 898, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 120 ans, est lui aussi considéré comme l'un des grands maîtres du Zen. Au moment où il rencontra pour la première fois Nansen, il était âgé d'environ 20 ans. Jusque-là, Joshua avait étudié la philosophie bouddhiste dans les écoles du nord de la Chine. Mais déçu de ne pas y trouver la vérité qu'il cherchait, il avait abandonné ses études, quitté sa région natale et entrepris un long voyage pour rejoindre le sud de la Chine ou disait-on les maîtres du shan, enseignaient que tous les êtres humains pouvaient réaliser leur véritable nature de Bouddha dans cette vie même. Pour bien saisir le koan que nous allons étudier aujourd'hui et au cours des prochains jours, il faut entrer dans l'esprit du jeune Joshua. Il a 20 ans. Il a laissé derrière lui tout ce qui jusque-là a constitué sa vie. Ses études, sa famille, ses amis, il a laissé tout cela pour s'engager seul dans un long périple vers le sud de la Chine, avec l'espoir d'y rencontrer des maîtres spirituels qui pourront l'éclairer. Que cherche-t-il? L'on peut facilement imaginer les rigueurs de son voyage. Nous sommes au 8e siècle en Chine. L'on y voyage presque toujours à pied, que ce soit sous la pluie, le soleil ardent ou encore dans le froid vif de la nuit. On dort où l'on peut, dans de modestes abris ou à la belle étoile. Les chemins sont souvent défoncés et escarpés. L'on doit franchir des ponts suspendus au-dessus de gorges profondes dans les montagnes. Et nos seuls compagnons et compagnes de route sont la peur, la solitude, la faim et l'insomnie. Le jeune moine est venu de très loin. Mais pourquoi? Que cherche donc Joshua? Il a tout laissé derrière lui et voyagé sans relâche vers le sud, où, dit-on, des maîtres spirituels pourront l'éclairer. Mais que cherche-t-il? Parvenu au terme de son voyage, il se tient debout devant Maître Nansen. Et quand il se met à parler, il dit simplement « Qu'est-ce que la voix ?» Voilà ce que Joshua n'a pas trouvé jusque-là dans sa vie. Qu'est-ce que la voix ? Il n'a pas d'autre question. Il n'a rien d'autre à offrir. Il dépose sa question au pied de Nansen avec humilité. Jusque-là, on peut penser que le monde a été une terre d'exil pour le jeune moine. Une terre où il a erré, assoiffé de vérité, cherchant sa propre maison, un endroit où il pourrait dire « Je suis chez moi ». Mais il ne l'a trouvé nulle part. Il lui reste sa question. Quel chemin dois-je suivre pour rentrer chez moi? Cela me rappelle une autre histoire, celle de l'un de mes compagnons de pratique au Centre Zen de Montréal. Avant de s'engager dans le zen, est complètement dérouté quant à l'orientation de sa vie personnelle et professionnelle, cet ami s'était rendu en France, dans l'Auvergne plus précisément, une région du centre de la France, afin d'y rencontrer Arnaud Desjardins. Ce dernier, qui fut l'auteur de nombreux livres sur la spiritualité de l'Inde et de l'Orient, avait étudié auprès d'un maître indien et obtenu de lui l'autorisation d'ouvrir un centre en France où il pourrait à son tour guider des personnes dans leur recherche spirituelle. Mon ami, après avoir lu les livres d'Arnaud Desjardins, et désespéré devant sa propre vie, avait sur un coup de tête pris la décision de partir à sa rencontre. Que croyez-vous qu'il espérait? Il n'avait averti personne de sa venue. Il ne savait pas précisément où se trouvait le centre qu'il cherchait, ni évidemment comment s'y rendre. Il voyageait comme un aveugle, ne sachant trop où il allait, mais avec la conviction profonde qu'il devait s'y rendre. Il finit par trouver l'endroit. Il me raconta être arrivé à pied, sous un soleil de plomb, sans vraiment savoir ce qu'il venait chercher. Il frappa à la porte du centre spirituel où il arrivait. Quelqu'un lui répondit. Il demanda aussitôt à voir Arnaud Desjardins. Et il se fit répondre que ce dernier était en déplacement pour quelques semaines à l'étranger, où il animait des retraites. Mon compagnon n'insista pas. Il revint au pays. Et quelques semaines plus tard, il vint frapper à la porte du Centre Zen de Montréal, où il put rencontrer M. Lowe pour la première fois. Il lui parla de sa désorientation personnelle et professionnelle, de son découragement profond face à sa propre vie, et il lui raconta son périple en France. Après l'avoir écouté, Albert lui demanda simplement pourquoi il s'était rendu en France et ce qu'il attendait de sa rencontre avec Arnaud Desjardins. Et mon ami ne put que bafouiller, incapable de répondre, sachant confusément que quoi qu'il dise, il n'arriverait jamais à trouver les mots justes pour dire ce que c'était. Il savait que c'était là, quelque part en lui, mais il ne connaissait pas les mots pour le dire. Joshua, lui, demanda à Nansen, « Qu'est-ce que la foi? Que cherche vraiment Joshua? Que lui manque-t-il? Que croit-il trouver auprès de Maître Nansen? » On dirait toujours que quelque chose manque, n'est-ce pas? L'on est souvent inquiet de ne pas le trouver, de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et l'on a beau avoir réussi sa vie, comme on le dit parfois, l'idée nous vient aussi parfois qu'il y a sûrement plus que cela. Le titre d'une chanson américaine des années 60 traduit bien ce sentiment. Is that all there is? Est-ce vraiment tout ce qu'il y a? Dans cette vie même, ici même, là où nous sommes, vous et moi, est-ce tout ce qu'il y a? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Peut-être pas avec ces mots, mais avec d'autres mots, les vôtres. Vous connaissez tous et toutes l'histoire du jeune prince Shakyamuni, qui à l'âge de 27 ans, quitta le palais de son père, où il avait jusque-là vécu toute sa vie, pour s'en aller comme un moine errant sur les routes poussiéreuses de l'Inde. Pourquoi quitter ainsi la richesse, le confort, une vie d'aisance et de luxe, laisser derrière lui son épouse et son fils, abandonner l'héritage de son père? La tradition raconte que depuis sa naissance, Siddhartha n'avait jamais quitté le palais de son père. Lorsqu'il était venu au monde, un devin avait prédit à ce dernier que son nouveau fils deviendrait un jour soit un grand prince, soit un pauvre moine errant. Le père, soucieux d'éviter à son fils une vie d'errance et de pauvreté, prit donc la décision d'isoler son fils dans l'enceinte du palais afin de le protéger d'un sort aussi funeste. Il lui procura tous les plaisirs qui pouvaient s'acheter, lui épargna tous les soucis de l'existence et l'éduqua de telle sorte qu'il puisse un jour lui succéder à la tête de la tribu des Chakya et devenir à son tour un souverain éclairé. L'histoire nous dit cependant que Siddhartha en vint à se sentir prisonnier de tous ses plaisirs et qu'il voulut connaître la vie de ceux et celles qui vivaient à l'extérieur du palais. Il fit venir son cocher et, dans le plus grand secret, ils quittèrent ensemble le palais la nuit. Ils rencontrèrent d'abord un homme malade, puis un vieillard, et enfin un cadavre. Jusque-là, au palais de son père, on lui avait soigneusement épargné les misères de la vie humaine, et il n'avait jamais connu ni la maladie, la vieillesse ou la mort. Il en fut profondément terrifié. C'était donc là ce qui attendait tous les êtres vivants. Siddhartha comprit pour la première fois que la maladie, le vieillissement et la mort étaient des compagnons qui ne nous quittaient jamais dans cette vie. Et ce sont ces compagnons eux-mêmes devant lesquels il se sentait si angoissé, qu'ils le lancèrent sur les routes de sa propre libération. Comme l'écrit M. Lo dans son livre « The Iron Cow of Zen », chacun de nous connaît bien ses fidèles compagnons qui nous accompagnent partout, le matin au déjeuner, en nous rendant au travail, en écoutant la télévision, au lit la nuit. Ils sont là, patients, mais toujours présents. Un cancer, un infarctus, un AVC, une auto qui dérape, une fuite de gaz, un incendie, une échelle mal appuyée. Et ses compagnons ne portent pas toujours les lourds habits de la guerre, de la famine ou de la mort. Nous ne pouvons jamais leur échapper, et le jour viendra où ils seront là. Et comme il le dit ailleurs, se pourrait-il que nos espoirs, nos rêves, et tout le reste viennent masquer notre peur profonde d'être perdu en exil, loin de notre foyer. L'incertitude, l'impermanence et le sentiment qu'il manque quelque chose, est-ce là ce qui nous a guidés jusqu'ici aujourd'hui? Sur cette natte, dans ce zendo où nous sommes en retraite. Comme Joshu qui rencontre Nansen au terme de son long voyage, se pourrait-il que nous aussi, nous cherchions quelque chose qui apaisera nos craintes, nos peurs et tous nos doutes. Quelque chose qui fera disparaître l'insécurité, et balayera l'incertitude hors de notre vie. Une vérité inébranlable, définitive, solide comme un roc. Quelque chose qui nous libérera enfin de ce sentiment profond qu'il manque toujours quelque chose dans notre vie. Lorsque l'on rencontre un maître spirituel, qu'il s'agisse d'un maître chrétien, soufi ou zen, cela importe peu. L'on espère recevoir de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Comme si l'on était assoiffé, l'on espère que l'eau coulera des mains du maître et que notre soif sera étanchée. On attend des mots de réconfort et d'apaisement. On cherche une vérité. Mais que peut dire un maître? Les maîtres zen Rinzai et Tokusan avaient l'habitude de frapper leurs étudiants avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Le maître Gutei levait l'index en réponse aux questions qu'on lui adressait. Le Bouddha lui-même leva un jour une fleur en guise de sermon. Ryutan souffla une chandelle. Joshu lui-même répondit un jour à un moine qui l'interrogeait sur son enseignement. « Lave ton bol. » Que peut dire un maître à celui ou celle qui, avec un cœur sincère, est venu de loin? Que peut-il lui donner pour apaiser sa soif? Joshu demanda, « Qu'est-ce que la foi ?» Il aurait pu dire, « Maître, comment puis-je me libérer ?» Percevant bien le désespoir de Joshu et son immense désir de trouver enfin une réponse inébranlable et définitive à sa seule question, Nansen lui répondit, « La voix, c'est l'esprit ordinaire. »